Bonjour à chacun, je me réjouis d'être parmi vous ce matin. C'est un privilège de pouvoir justement se rencontrer entre églises et spécialement entre églises de l'association Baptiste. Alors je viens effectivement de Nédan. Certainement que vous avez déjà entendu parler de cette église. Ça fait 5 ans qu'on a commencé à avoir des cultes régulièrement et depuis 5 ans, Dieu nous bénit, nous avons eu le privilège de poursuivre l'œuvre commencée et cette église avance, grandit avec ses hauts et ses bas comme dans toutes les églises. Mais je crois aussi grâce à vous parce que François est venu nous aider quand on en avait besoin à plusieurs reprises et d'autres de l'association, entre autres l'église de Genève, mais aussi des membres de la direction de l'association Baptiste sont venus pour nous encourager, pour nous aider, pour nous apporter une prédication, des conseils précieux. Et aussi, bien sûr, Nordine qui était à nos côtés depuis 2 ans bientôt. Et on continue à prier pour lui, se réjouir aussi que sa santé va mieux. Et on prie pour que bientôt il puisse se rétablir complètement et rentrer à la maison. Alors effectivement, c'est important d'être solidaires les uns des autres, d'avoir une association qui pense à nous, qui nous aide et qui nous permet d'avoir une communion les uns avec les autres. Et je me réjouis d'être parmi vous ce matin. Ma femme me disait, c'est 11h21. Alors j'espère que vous avez encore un peu de temps et pour qu'on puisse ensemble plonger un petit peu dans la parole de Dieu, continuer à approfondir ce que Dieu a en réserve pour nous ce matin. Alors dans l'introduction qu'on a vécue, eh bien on a insisté beaucoup sur cette importance de s'approcher de Dieu et de ce que Dieu fait dans nos vies. Et la transformation qu'il a apportée par la grâce en Jésus-Christ. Et je pense que c'est important et c'est la base de tout. Mais ce matin, je vous propose de vous plonger dans un texte dans Marc, au chapitre 12, un texte que vous certainement vous connaissez tous, qui se retrouve dans les 3 évangiles de Matthieu, de Marc et de Luc. Et ce texte, c'est ce passage sur le plus grand commandement. Et on le trouve dans Marc 12, au verset 28, et je propose de lire ce passage. Un des spécialistes de la loi s'approcha de lui. Il avait entendu cette discussion et avait remarqué avec quel à propos Jésus avait répondu. Il lui demanda, « Quel est le commandement le plus important de tous ?» Et Jésus répondit, « Voici le commandement le plus important. Écoute Israël, le Seigneur est notre Dieu. Il est le seul Dieu. Tu aimeras donc le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, de toute ton énergie. Et voici celui qui vient en second, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'y a pas de commandement plus important que cela. C'est bien, maître, lui dit le spécialiste de la loi. Tu as dit vrai, il n'y a qu'un seul Dieu, il n'y en a pas d'autre que lui. L'aimer de tout son cœur, de toute son intelligence et de toute son énergie, ainsi qu'aimer son prochain comme soi-même, c'est bien plus important que tous les holocaustes et tous les sacrifices. Jésus, voyant qu'il avait répondu avec intelligence, lui dit, « Tu n'es pas loin du royaume de Dieu. » Après cela, personne n'osa plus lui poser de questions. Aimer Dieu et aimer son prochain. Dans des passages parallèles, c'est dit que c'est toute la loi et les prophètes. Et ce passage est un passage important les chefs religieux. Et dans ce passage, et dans ce qui précède, eh bien, on est introduit dans des polémiques avec les responsables religieux et avec Jésus. Si vous lisez quelques lignes auparavant, on voit que on se pose des questions sur la résurrection, sur l'impôt à César. Quelle autorité a Jésus ? La polémique aussi sur la nature du Messie et sa relation avec David. Et donc, ici, on se situe dans un contexte où Jésus va souligner la culpabilité des chefs religieux. Et il introduit cette culpabilité parce que ces chefs religieux n'arrivent pas à voir en Jésus le Messie, alors que c'est les chefs religieux, c'est qu'ils ont les yeux plongés dans la loi et qu'ils n'arrivent pas à voir le Messie en Jésus-Christ. Et il leur reproche leur hypocrisie. Cette hypocrisie parce qu'ils utilisent la piété comme un prétexte pour dépouiller les plus démunis et pour parader en s'élevant au-dessus du reste de la population pour obtenir les places d'honneur. Alors j'avais fait un PowerPoint, je ne sais pas si ça marche. Ouais. Ah voilà. Parfait. Effectivement, on est dans cette polémique avec les chefs religieux. Mais dans cette polémique, eh bien, il y a un spécialiste de la loi. Et ce spécialiste de la loi, eh bien, j'ai l'impression qu'il est un petit peu plus perspicace. En tout cas, ce texte montre qu'il va chercher quelque chose de plus. Ah, on recommence. Tac, tac, tac. Et voilà. Un spécialiste de la loi perspicace. Alors, ce spécialiste de la loi, il a vu que Jésus avait répondu de manière intelligente à toutes les questions qu'on lui posait, et il vient et il va aborder Jésus. Quel est le commandement le plus important de tous ? Alors, aborder la question du plus grand commandement est tout naturel pour un spécialiste de la loi, il semble. Hein. Ces spécialistes de la loi, ils avaient fait des inventaires dans l'Ancien Testament et ils avaient relevé dans tout cet Ancien Testament 613 commandements, 248 affirmatifs, 365 négatifs. Ils avaient réparti ces commandements en plus faciles et en plus difficiles, en plus importants et en moins importants. Et donc, bien sûr, poser cette question à Jésus, ça semblait assez naturel dans leur conception des commandements. Et en plus, comme on est dans une situation où ces chefs religieux cherchent à tendre des pièges à Jésus, eh bien, la réponse que Jésus va donner à la question à ce chef responsable religieux, spécialiste de la loi, eh bien, va être importante. La réponse apportée par Jésus peut placer Jésus dans une situation délicate, difficile. Par exemple, on pourrait le taxer de laxisme, puisqu'on voit que les disciples ne respectaient pas toujours la loi prescrite de Moïse. Ou voire peut-être d'anarchique, puisque Jésus semblait ne pas penser que le sabbat était quelque chose d'important. Donc, la réponse de Jésus sera scrutée de manière très attentive pour savoir si on pourra l'accuser sur sa réponse. Mais ce récit sur le plus grand commandement et la conclusion qui en est donnée détonne dans le contexte. Un chef religieux, et la conclusion du texte, c'est un chef religieux qui est proche du royaume. Alors que dans le contexte général, Jésus est plutôt en train de dire que ces chefs religieux s'opposent à lui et sont des gens vaniteux, hypocrites, eh bien là, on est en présence d'un chef religieux qui est proche du royaume. C'est d'autant plus intéressant à souligner que seul Marc donne une coloration positive à ce spécialiste de la loi. Dans les autres passages de Luc et de Matthieu, on voit que le chef religieux vient pour tendre un piège à Jésus. Ici, pas de piège signalé, mais certainement une volonté d'avancer dans la compréhension de qui est ce Jésus et quelle est sa théologie finalement par rapport à la loi. Un point sans doute fondamental encore pour un spécialiste de la loi. Et la question des commandements, si vous reprenez tous les évangiles, la question des commandements est omniprésente dans les discours et les actes de Jésus. Durant tout son ministère, bien sûr, on voit toutes ces polémiques par rapport au sabbat, où Jésus guérit le jour du sabbat. On voit aussi dans l'histoire du jeune homme riche. Et qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour avoir la vie éternelle ? Et Jésus lui dit, tu connais les commandements ? Et il lui dit, oui, je les respecte tous. Et Jésus lui dit, ben alors vends tout ce que tu as et suis-moi. Et ça le rend très triste parce qu'il était très riche. Et puis, sur l'amour du prochain, bien sûr, on a l'histoire du bon samaritain. Et ce qui est intéressant, c'est que l'histoire du bon samaritain, le contexte et le prétexte, c'est justement le plus grand commandement. Mais ce n'est pas Jésus qui pose la question du plus grand commandement, mais c'est justement le chef religieux, le spécialiste de la loi qui dit, mais ce commandement, c'est le plus grand. Et qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour hériter de la vie éternelle ? Et ça, vous le trouvez dans Luc. L'amour du prochain, le bon samaritain, ce même texte qui est aussi la base de notre récit de ce matin. Et vous avez aussi tout le sermon sur la montagne dans Matthieu 5 à Matthieu 7, dans Luc 6 aussi. Ce sermon sur la montagne qui finalement essaye de mettre en perspective ce commandement d'aimer Dieu et d'aimer son prochain comme soi-même. Dans tous les récits sur les commandements que Jésus aborde, il y a une nécessité de sublimer, d'aller au-delà des règles établies par les hommes pour viser une règle suprême qui permet de passer du formalisme religieux à une religion authentique. Pardon, je vais revenir en arrière. Voilà. La nature de l'amour et de l'obéissance. Dans ce contexte, dans ce passage, l'amour ici, c'est l'amour agapé. C'est un amour qui est déterminé par les actes. Ce n'est pas un amour sentimental. Et l'amour pour le prochain, c'est cette habilité à se donner pour le bien de l'autre sans considérer le prix à payer. C'est vraiment, véritablement, chercher l'intérêt de l'autre avant le sien. Par exemple, dans Philippiens 2, 3, 5, on lit « Ne faites rien par esprit de rivalité ou par désir d'une gloire sans valeur, mais avec humilité, considérez les autres comme supérieurs à vous-même, que chacun de vous, au lieu de regarder ses propres intérêts, regarde aussi à ceux des autres, que votre attitude soit identique à celle de Jésus-Christ. » Et l'amour pour Dieu, c'est vivre pour lui plaire, garder sa parole, garder ses commandements. C'est ce qu'on trouve aussi dans Jean 14, 15. Et cet amour, il est impossible à l'homme séparé de Dieu. L'homme séparé de Dieu peut pas aimer de cette manière-là. Et on lit dans Romains 5, au verset 5 et 6, « Or l'espérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Car lorsque nous étions encore sans force, Christ, autant marqué, est mort pour des impies. » L'amour qui est cité ici, eh bien, c'est un amour qui vient de Dieu et qui ne vient pas de nous. C'est un amour qui nous habite par le Saint-Esprit, et c'est quelque chose de fondamental à se rappeler. La loi enseigne comment les hommes pourraient acquérir la justice par les œuvres. Si on arrivait à accomplir toute la loi, eh bien on serait justifié, et puis on pourrait aller auprès de Dieu. Mais personne ne peut être justifié par les œuvres, car le problème, ce n'est pas la loi, mais le problème, il réside dans l'homme qui ne peut pas accomplir la loi. Alors, ce premier commandement, aimer Dieu. C'est le point de base. Il est superflu d'ordonner ce qui se fait naturellement. Ce qui est ordonné demande un effort, une transformation du naturel. S'il y a un commandement d'aimer, c'est que ça ne se fait pas naturellement. Et ceci demande un effort. Il est donc nécessaire pour véritablement aimer selon Dieu, il est nécessaire qu'il y ait une transformation de notre être naturel. Si cette transformation ne s'opère pas, notre obéissance à aimer revient à vivre enfermé dans une obéissance servile qui détruit la réalité de l'amour. Le formalisme religieux véhiculé par les chefs religieux rendait impossible au peuple une vie selon les vrais désirs de Dieu. Alors, est-ce possible d'aimer Dieu ? Est-ce possible d'aimer Dieu ? Est-ce possible d'aimer Dieu selon ses critères ? De tout son cœur, de toute son âme, de toute sa pensée, de toute son énergie ? Et ça nous place devant une réalité et devant Dieu. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, de toute ton énergie. C'est le plus grand commandement. Alors si c'est le plus grand commandement, l'enfreindre, c'est peut-être la plus grande chose, la plus grande erreur à faire. Alors est-ce possible d'aimer Dieu ? Eh bien oui. Heureusement, c'est possible d'aimer Dieu. Parce qu'il a tout payé. Lui, le premier. C'est possible parce que ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Et pour aimer, il est nécessaire de passer par une transformation. Et cette transformation, elle nous est apportée par la nouvelle naissance en Jésus-Christ. C'est ce que Jean est venu annoncer quand il parlait aux foules et il disait « Changez de vie !» Changer de vie pour pouvoir accueillir le royaume de Dieu. Et Jésus est venu confirmer et a réellement rendu possible cette transformation de vie. Repentez-vous et changez de vie. C'est l'élément de base pour pouvoir réellement aimer Dieu de tout son cœur, de toute son âme, de toute sa pensée et de toute son énergie. Si tu n'as pas encore eu cette transformation dans ta vie, eh bien c'est le moment. Parce que si tu veux aimer Dieu, il faut reconnaître Jésus-Christ comme étant celui qui a tout payé pour nous réconcilier avec Dieu et nous donner par sa grâce sa vie éternelle et l'accès auprès du Père. Deux axes qui nous mènent vers l'amour de Dieu. Aimer Dieu, c'est exécuter volontiers ses commandements. Et peut-être que nous avons deux axes, pour aller dans cette direction. Respectez ses commandements. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. C'est ce que les Juifs essayaient de faire, en mettant en place toute une sorte de règles. C'est qu'il voulait garder les commandements de Dieu. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Ils voulaient aimer Dieu, mais ils n'arrivaient pas à le faire selon ce que Dieu voudrait. Mais c'est la réalité. Et l'évangile de Jean insiste là-dessus. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et garder les commandements de Dieu, c'est avant tout, comme on l'a vu en introduction, c'est s'approcher de Dieu, aller vers lui. Romains 13, 10 nous dit « L'amour, c'est l'accomplissement de la loi. » Et donc, quand on aime, eh bien, on accomplit la loi. Et si on accomplit la loi, eh bien, on aime aussi. Et aimer Dieu, c'est établir cette relation avec lui. Parce que Dieu est amour. La source de l'amour est là. Passer du temps, du dialogue, de la réflexion, de l'interrogation, de l'adoration avec son Dieu est donc primordial et doit se faire avec tout son être, avec toute sa force, avec toute sa pensée, avec toute son énergie. Ceci demande de la volonté. Paul dit dans Colossiens 3,14 que l'amour est le lien de la perfection. Donc rechercher une relation profonde avec Dieu, eh bien ça nous permet d'alimenter cet amour qui nous est nécessaire. Être dans la présence de Dieu nous permet de bénéficier de son amour et c'est ce qui nous rend capables d'aimer. Comme déjà dit, Dieu prouve son amour envers nous alors que nous étions encore des pécheurs. Christ est mort pour nous. L'initiative vient de lui. Notre responsabilité est de lui emboîter le pas. Prier, lire sa parole, écouter, participer aux activités de l'Église, le louer, nous permet d'être en capacité de recevoir l'amour de Dieu. Et on ne perd pas son temps quand on est avec Dieu, mais on se prépare à aimer toujours plus et toujours mieux. Alors, comment tu aimes Dieu? Comment j'aime Dieu? Comment je recherche cette relation avec mon Dieu pour que je puisse m'abreuver à la source de l'amour et ainsi aimer à mon tour? Voilà pour l'amour de Dieu. Mais ensuite, nous avons ce deuxième commandement qui vient ensuite, aimer son prochain. Alors, j'aimerais faire deux remarques. La première, c'est qu'il y a un lien évident entre les deux commandements d'aimer Dieu et d'aimer son prochain. Les deux commandements sont étroitement liés et il ne faut pas les séparer. L'amour du prochain découle de l'amour de Dieu. C'est la réponse concrète à l'amour de Dieu. Ces deux commandements ne peuvent pas être dissociés ni inversés. Et l'humanisme qui nous entoure utilise ce précepte sans le soumettre à l'amour de Dieu. On nous dit qu'il faut aimer celui qui est en face de nous. On appelle cela de la vertu, mais elle n'a pas beaucoup à voir avec l'amour chrétien. Et finalement, aimer son prochain sans référer à l'amour de Dieu, c'est finalement aller vers un salut par les œuvres. Une deuxième remarque qui est importante aussi ici, c'est une interprétation que peut-être vous avez déjà entendue, une interprétation psychologisante de ce passage. Vous avez peut-être entendu citer ce verset à la clé que l'amour que l'on se porte était essentiel pour pouvoir envisager l'amour du prochain. Pour le dire d'emblée, cette interprétation ne peut être appliquée dans ce contexte. Les commandements sont d'aimer Dieu et son prochain, pas de s'aimer pour pouvoir aimer son prochain. Il n'y a pas non plus un troisième commandement qui découle des deux premiers qui serait « tu t'aimeras toi-même pour aimer l'autre ». L'amour de soi n'est pas inscrit dans le plan de Dieu, mais découle du naturel. Je m'aime parce que naturellement je prends soin de moi, parce que naturellement je me mets un toit sur la tête pour vivre, parce que naturellement je vais me nourrir, naturellement je vais prendre soin de moi. Naturellement, je prends soin de moi. Et cet amour est naturel, est normal. Mais la norme de l'amour, c'est Dieu et non pas moi, pas nous. Et le contexte de Lévitique 19, d'où découle ce texte justement de l'amour du prochain, va nous permettre d'aborder cette relation d'une manière plus précise et on va revenir tout à l'heure. Mais là encore, l'amour demandé ici n'est pas de l'ordre du sentiment, mais de la volonté. J'aime parce que j'ai ce désir, cette volonté d'aimer mon prochain. Je ne peux pas aimer parce que je le veux, encore moins parce que je le dois. Nous ne trouvons pas dans un amour lié au sentiment d'affection, mais un amour qui vise à l'action. Et si je peux aimer mon prochain, c'est parce que j'aime Dieu et Dieu m'aime. Et ceci me permet de viser une action d'amour vis-à-vis de mon prochain. Alors, le contexte de Lévitique, et je vous propose, pour ceux qui ont une Bible, de tourner vos pages et de revenir à Lévitique. Et à Lévitique, au verset 18. Je n'ai pas noté la référence. Alors, Lévitique, Nombre. Et c'est pour ça que j'ai pris mes notes manuscrites. Voilà, 19-18. L'amour pour le prochain. Dans ce passage, il y a une reprise du décalogue. Donc, dans ce passage de Lévitique 19, c'est une reprise des 10 commandements avec, pour chaque commandement, une petite explication, une petite manière de l'aborder d'une manière pratique. Et on arrive au verset 18 de Lévitique 19. Et je vais prendre depuis le verset 17. « Tu ne haïras pas ton frère dans ton cœur, mais tu ne manqueras pas de reprendre ton prochain pour ne pas te charger d'un péché à son égard. Tu ne te vengeras pas et tu ne regarderas pas de rancune envers les membres de ton peuple, mais tu aimeras ton prochain comme toi-même. Je suis l'Éternel. » L'amour est lié à un contexte de conflit avec son prochain, avec son frère. Et l'objectif ici, c'est de résoudre ce conflit. L'idée est donc d'aller vers son frère plutôt que de le haïr. Et c'est dans ce contexte-là qu'on a « Tu aimeras ton prochain comme toi-même ». Et si vous allez quelques versets plus loin, je trouve que ce verset 34 est très important, alors on peut lire depuis 33, « Si un étranger vient s'installer dans votre pays, ne l'exploitez pas. Traitez-le comme s'il était l'un des vôtres, tu l'aimeras comme toi-même. Car vous avez été vous-même étranger en Égypte, je suis l'Éternel, votre Dieu. » Donc, l'idée ici, c'est l'identification au prochain. Et donc, l'idée est donc d'aimer en comprenant que ce que vit l'autre, ce qu'il traverse, les situations quelconques qu'il vit, eh bien, je suis aussi susceptible de les vivre. L'amour du prochain, dans la prise de conscience de ce qui réunit pour l'aider dans l'humilité, et dans l'obéissance à la volonté de Dieu. L'idée n'est pas dépendante d'un sentiment, mais de la volonté d'identification à l'autre. L'amour n'est pas la conséquence d'une inclination favorable, mais mû par le désir de témoigner concrètement l'intérêt que l'on porte à son prochain. L'amour non plus, ici, n'est pas une obéissance servile, mais un reflet de la fidélité de Dieu. « Je suis l'Éternel, votre Dieu. » C'est parce que nous avons un Dieu qui nous aime que nous pouvons aimer à notre tour. Et ici, tu aimeras ton prochain comme toi-même, tu aimeras l'étranger comme toi-même. Pourquoi ? Parce que tu as aussi été étranger. Parce que tu as aussi vécu cette évidence d'être dans un pays que tu ne connais pas, qui n'est pas le tien, et les difficultés qui en ressortent. Et donc, il faut aimer ton prochain parce que tu vis aussi des choses difficiles comme lui le vit. Et de là, Eh bien, Jésus nous propose de passer de l'égocentrisme, un amour tourné uniquement vers soi-même, de passer de l'égocentrisme à l'altruisme, un amour tourné vers l'autre. Et donc, l'amour de soi est supposé comme une évidence. Il s'agit donc de passer de l'égoïsme à l'altruisme, du souci de soi au souci de l'autre. Si j'admets que je m'aime naturellement, que j'aime naturellement mon prochain, comme je m'aime naturellement, je prends soin de moi, je me nourris. Donc ce serait de l'ordre du normal. Si j'aimais mon prochain de cette manière-là, ce serait de l'ordre du normal. Et si c'était normal d'aimer son prochain, ben, il n'y aurait pas de guerre, pas de haine, pas de larmes. Tout découlerait naturellement de qui je suis, de qui nous sommes. Mais on se rend bien compte, en regardant le monde tel que nous le voyons autour de nous, que ce n'est pas la réalité. Et que nous devons aimer. Nous avons cette nécessité d'aimer. Et c'est pour ça qu'il y a ce commandement d'aimer son prochain, parce que ce n'est pas quelque chose que nous faisons naturellement. La transformation de notre penchant naturel est capitale et doit répondre à l'exigence morale de Dieu. Vivre dans cette perspective, c'est marcher dans la sainteté. Alors, l'amour du prochain en pratique, c'est quoi ? Si mon prochain m'offense et suscite en moi un effet de haine, que faire ? Et je pense que c'est bien de relire dans Luc 6 ce que Jésus dit par rapport à cette réalité. Luc 6. C'est le résumé du sermon sur la montagne que vous trouvez aussi en Matthieu. Et on peut lire au verset 27. Quant à vous tous qui m'écoutez, voici ce que je vous dis. Aimez vos ennemis, faites du bien à ceux qui vous haïssent, appelez la bénédiction divine sur ceux qui vous maudissent, priez pour ceux qui vous calomnient. Si quelqu'un te gifle sur une joue, présente-lui aussi l'autre. Si quelqu'un te prend ton manteau, ne l'empêche pas de prendre aussi ta chemise. Donne à tous ceux qui te demandent. Et si quelqu'un te prend ce qui t'appartient, n'exige pas qu'il te le rende. Faites pour les autres ce que vous voudriez qu'ils fassent pour vous. Si vous aimez seulement ceux qui vous aiment, pensez-vous avoir droit à une reconnaissance particulière ? Les pécheurs aiment aussi leurs amis. Et si vous faites du bien seulement à ceux qui vous en font, pourquoi vous attendriez-vous à de la reconnaissance ? Les pécheurs n'agissent-ils pas de la même manière ? Si vous êtes prêt seulement, si vous prêtez seulement à ceux dont vous espérez être remboursé, quelle reconnaissance vous doit-on ? Les pécheurs aussi se prêtent entre eux pour être remboursés. Vous, au contraire, aimez vos ennemis, faites-leur du bien, prêtez sans espoir de retour. Alors votre récompense sera grande. Vous serez les fils du Très-Haut, parce qu'il est lui-même bon pour les ingrats et les méchants. Votre Père est plein de bonté. Soyez donc bons comme lui. Une exigence qui est grande. Et quand je relis ces textes, je me dis clairement que je ne suis pas du tout en phase avec ce que Jésus dit. Alors, est-ce que j'aime vraiment mon prochain ? Est-ce que vraiment je suis prêt à attendre l'autre joue, à prêter sans espoir de retour, à aimer mes ennemis et pas seulement aimer mes amis ? Et c'est là que ces deux commandements prennent toute leur valeur, leur importance. Jean, dans ses lettres, disait que c'est facile de dire qu'on aime Dieu qu'on ne voit pas. C'est plus compliqué d'aimer celui qui est proche de moi. Et là, c'est tout un programme. C'est tout un programme qui est marqué par la grâce que Dieu nous donne. Et c'est clair et net que si je veux vivre ce que nous venons de lire dans Luc, eh bien, je ne pourrai pas par moi-même. C'est impossible de vivre de cette manière-là. Et plusieurs personnes de notre monde ont fait allusion à ces passages pour dire que c'est impossible de vivre de cette manière-là. Cette transformation paraît bien improbable pour notre société au cours du temps et des époques. Certains disent que cette recherche implacable de l'amour du prochain peut mettre en péril la santé psychologique de l'individu. Cette recherche devenant une obsession qui prive l'individu de toute quiétude. Oui, il faut que j'aime mon prochain. Il faut que je tende l'autre joue. Il faut. Et Freud s'oppose vraiment farouchement à ce commandement et s'exprime ainsi au travers d'un poète. Il dit ceci: j'ai le tempérament le plus pacifique du monde. Mes désirs sont bien simples. Une maisonnette, un toit de chaume, mais un bon lit dessous, du bon manger, du lait, du beurre bien frais, des fleurs à la fenêtre, devant la porte, quelques beaux arbres. Et si le bon Dieu voulait me combler tout à fait, il m'accorderait le bonheur d'y voir pendre 6 ou 7 de mes ennemis. Le cœur ému, je leur pardonnerais à l'heure suprême tout le mal qu'ils m'auraient fait pendant leur vie. Oui, il faut pardonner à ses ennemis, mais pas avant qu'ils soient pendus. Je ne suis point vindicatif. Je voudrais aimer mes ennemis, mais je ne le puis. Je ne puis les aimer avant d'être moi-même vengé d'eux. Alors seulement, pour eux, mon cœur s'ouvre. Tant qu'on ne s'est pas vengé, il reste un levain dans l'âme. Pour Kant, ces deux commandements sont l'idéal de la sainteté. Ces deux commandements sont l'idéal de la sainteté et ne peuvent être atteints par aucune créature. Cependant, pour lui, il dit qu'il faut y tendre. Donc on voit que ces commandements, ils ont été repris par des philosophes, par des intellectuels, par des médecins, pour se poser la question, mais est-ce possible réellement de les vivre tels qu'ils nous sont enseignés ? Eh bien, comme pour l'amour de Dieu, ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Et ce n'est qu'au travers de ce que Christ a fait sur la croix et de cette volonté de vivre dans ses voies, dans ses plans, que nous pourrons petit à petit, jour après jour, vivre ses commandements. À chaque jour suffit sa peine. Je crois que la parabole du bon samaritain nous montre bien que nous sommes le prochain de celui qui a besoin de nous. Et c'est dans ce contexte-là qu'il faut voir l'amour de notre prochain. J'arrive bientôt au bout. Plus que tous les holocaustes et les sacrifices. Le spécialiste de la loi entend la réponse de Jésus et va avoir une certaine révélation. Et tout à coup, sa foi, elle bascule. Et dans Osée 6,6, il est écrit « Car je prends plaisir à l'amour bien plus qu'au sacrifice, à la connaissance de Dieu plus qu'aux holocaustes. Dieu ne peut être apaisé par des sacrifices d'animaux quand l'amour est délaissé. » Et tout à coup, le chef religieux va se rendre compte de ça et il y aura un basculement dans sa foi. La reformulation des paroles de Jésus par le spécialiste de la loi suggère ce basculement intellectuel. Il exprime publiquement que les règles de la loi, Même les plus importantes sacrifices et holocaustes sont au cœur du culte, mais ces règles doivent être précédées de l'amour de Dieu et de l'amour pour Dieu. Si elles ne sont pas subordonnées à l'impératif de l'amour, ces règles n'ont aucune valeur. Et sa foi basée sur le respect des commandements, sans la transformation de l'amour de Dieu, est en train de migrer vers une foi qui reflète l'amour. Et je pense que l'étape suivante pour lui sera de comprendre l'amour de Dieu en action au travers de l'œuvre de rédemption et de réconciliation de Jésus-Christ. C'est pour ça que Jésus lui dit, tu n'es pas loin du royaume. Mais ce passage nous place aussi devant le ritualisme, ce que nous faisons par habitude. Et ici, nous devons nous interroger. Est-ce que je prie? Est-ce que je chante? Est-ce que je vais au culte? Est-ce que j'aide mon prochain par habitude? Quel est le moteur des œuvres que je mets en œuvre? Quel est mon état d'esprit? Est-ce des actes délibérés, libres, basés sur une relation profonde avec Dieu, ou des actes contraints par un devoir? Je dois. Une autre question aussi est à se poser, est de savoir si je recherche des fois aussi un profit personnel en accomplissant ces commandements. Est-ce que finalement, sous prétexte d'aimer son prochain et d'aimer Dieu, je ne recherche pas mon bien-être personnel? Je pense qu'il nous faut beaucoup d'humilité pour comprendre et mettre en pratique ces commandements. Alors j'en arrive à la conclusion. Ce qui est fondamental, c'est de bien comprendre que Dieu est l'alpha et l'oméga de l'amour. L'amour vient de Dieu et va vers Dieu, et rien ne peut être entrepris en dehors de ce cadre posé par Dieu. Et ça nous délivre d'un activisme. Ça nous mène vers Dieu, vers une relation ancrée et profonde en lui. Mais l'amour, c'est l'amour en action. Si l'amour n'est pas dépendant d'un sentiment, elle est le fait d'une volonté, elle est action. Elle se travaille, elle s'expérimente. Et je crois qu'un enfant de Dieu doit être reconnu non par sa religiosité, mais par son amour. Et enfin, l'amour, c'est rechercher l'intérêt de l'autre. L'amour n'est pas la conséquence d'une inclinaison favorable, mais elle est mue par le désir de témoigner concrètement la recherche de l'intérêt de l'autre, du prochain et non du sien. Amen.